Donc aujourd'hui, le thème porte sur les résurrections, auxquelles moi j'apporte plutôt un titre différent, à savoir la résurrection et les résurrections. Alors, en introduction, à la fin des Actes, Paul est arrêté en compagnie de deux gentils qu'il avait amenés dans un temple juif, deux grecs, à Jérusalem. On trouve cette scène dans Actes 21. Donc les actes présentent le début de l'église chrétienne à Jérusalem et après notamment donc l'action de Paul qui était pharisien, le plus pharisien qui soit et qui, suite à l'apparition du Christ sur la route de Damas, s'est complètement repenti et converti au Seigneur Jésus-Christ pour après mener une action d'évangélisation au départ auprès des Juifs et après quand il a vu... la dureté des Juifs, et guidé par le Seigneur, il a décidé d'évangéliser auprès des gentils, donc du pourtour méditerranéen. Donc dans Actes 21, verset 28, il nous est dit « En criant, homme israélite, aidez-nous, voici l'homme qui prêche partout. » Donc ce sont les Juifs qui crient après Paul, surpris dans le temple. Et devant tous, contre la nation, la loi et celui-ci. Il a même encore amené des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Voilà. Donc, après un périple important, Paul est revenu à Jérusalem en compagnie de deux Grecs dans un temple pour faire des actes des prières, des offrandes, je crois. Et donc, il est arrêté, reconnu par les Juifs. Donc, les Juifs veulent le tuer, comme toujours. Mais il est sauvé d'extrémisme par les Romains qui sont chargés d'assurer l'ordre dans la nation juive. Même si les Romains laissaient une certaine autonomie au peuple qu'ils contrôlaient, bien sûr, l'ordre était toujours contrôlé par les Romains. Donc, s'ensuit différentes péripéties au cours desquelles donc, Paul est amené à devoir se justifier. Pourquoi il a été pris dans le temple avec des Grecs notamment. Mais également, de façon plus profondément, sur... son action et sur le discours qu'il mène. Et donc, il comparait devant Festus, qui était un tribun romain, puis il est amené plus tard à comparaître devant le roi Agrippa, à qui donc il déclare la chose suivante, dans Actes 26, versets 6 et 8. Hein, donc, c'est résumé. Hein. « Et maintenant, je suis mis en jugement pour l'espérance que j'ai en la promesse que Dieu a faite à nos pères, et dont nos 12 tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour, attendent l'accomplissement. C'est pour cette espérance, toi, roi Agrippa, que je suis accusé par les Juifs. Quoi ? Jugez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Voilà. Donc, pour résumer son action, Paul dit qu'en fait, il est accusé par les Juifs, en général, pour l'espérance qu'il a dans la résurrection, qui est un des points de l'Évangile. Outre le salut offert par grâce par Jésus-Christ, il y a à la clé la vie éternelle et la résurrection. Et donc c'est sur ce quoi Paul veut argumenter. Alors, pour remettre ça dans un contexte plus général, il faut revenir à Genèse avec donc le dessein de Dieu. On sait tous que Dieu a créé l'être humain, homme et femme, à son image et sa ressemblance, par amour et parce qu'il avait envie de se constituer une famille, des personnes avec qui il souhaitait vivre et partager. Donc on retrouve ça, alors vous n'êtes pas forcé de forcément suivre absolument dans la Bible, mais je vous donne quand même les points de repère. Donc dans Genèse 1, versets 26 et 28, nous avons donc ce que vous connaissez. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Voilà, donc Dieu crée l'homme et la femme, qu'il met au milieu de sa création, pour que celui-ci règne sur la création, puisque dans le verset 28, il dit « Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit « Croissez, multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà, donc, pour pas être plus clair, l'homme est la création suprême de l'ensemble de la création de Dieu, et il le place donc au cœur de celle-ci. Et il place donc l'homme au centre du jardin d'Éden. Il lui donne à la fois des responsabilités, mais également une jouissance du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 2, versets 8 et 9, « Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé, l'homme et la femme, et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc là, très important, deux arbres principaux dans cet Éden, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le verset 15 et 16 et 17 de ce même chapitre, nous avons un avertissement de Dieu à l'égard de l'homme. Donc Dieu partage sa compagnie avec l'homme et la femme. Néanmoins, il leur donne donc une suprématie sur sa création, mais il les met en garde et il les met devant leur responsabilité de faire certains choix. Donc, versets 15, 16, 17. « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Voilà. Donc, l'homme jouit d'une totale liberté. Dieu la lui laisse. Et il espère que l'être humain en fera bon escient. Je rappelle qu'il y a dans ce jardin l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quelque part, il y a un choix à faire, puisque l'arbre de vie, c'est l'arbre de vie éternel, pour vivre éternellement. Et un autre arbre, la connaissance du bien et du mal, où c'est plus dangereux, puisque l'homme, s'il mange ce fruit-là, peut avoir une conscience ou du bien et du mal, et finalement choisir, sans qu'il en soit vraiment, on va dire, apte à déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal. Et donc malheureusement, comme vous le savez tous, sous l'action bien sûr du diable, qui est venu mettre le trouble, l'être humain, Adam et Ève, font le mauvais choix. Et donc, dans le chapitre 3 suivant, verset 11, et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Voilà. Donc, malheureusement, l'être humain a fait un mauvais choix, sachant qu'au départ, Dieu avait tout pourvu pour lui et souhaitait vivre éternellement avec lui sur terre. Donc on voit que le dessein de Dieu est bon depuis le départ et que son dessein est de permettre à l'homme, à l'être humain, de vivre éternellement. Malheureusement, le fait d'avoir péché lui prive de la vie éternelle. Et nous voyons ceci donc dans la Genèse chapitre 3 verset 11. Genèse 3 verset 22 et 24. Et l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Et oui, puisque maintenant il était entaché du péché, il n'était pas question qu'il puisse vivre éternellement comme pécheur. C'était pas possible par rapport à la sainteté de Dieu. C'était pas possible qu'il puisse vivre dans cet état-là en sa compagnie. Donc, on voit que dès le départ, Dieu souhaite que nous vivions éternellement. Malheureusement, le cours des choses n'a pas évolué en ce sens-là. Cependant, Dieu n'a pas été pris au dépourvu, puisque Dieu est Dieu tout-puissant, omniprésent, omniscient, omnipotent. Et donc, quand il a décidé de créer l'univers, l'être humain, dans une fulgurance de vision, il a vu tout de suite tout ce qui allait se passer, il a su tout de suite ce qu'il y aurait, et tout de suite, il avait prévu, dès le départ, les actions à mener pour le bien de l'homme. Donc, Dieu n'a jamais été pris au dépourvu. Et Dieu n'a jamais appliqué un plan B face à une situation qui aurait été non prévue. Parce que sinon, ça ne serait pas Dieu. Et à propos donc de ce dessein de Dieu de vouloir que l'être humain vive éternellement, ceci nous est de nouveau confirmé par Jésus-Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, versets 1 à 3. avant que Jésus-Christ soit arrêté pour être jugé, pour être crucifié, il dit ceci à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et vous prendrai avec moi, afin d'où je serai, vous y soyez aussi. » Donc on voit bien, là encore, que le dessein de Dieu, c'est de vivre éternellement. Alors lui, il est éternel, bien sûr, mais de nous apporter à nous l'éternité pour vivre en sa compagnie. Or, il y a eu un jugement qui est celui de la condamnation du péché. Et comme vous le savez, il est dit dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort. Mort biologique. Et nous y sommes tous assujettis, que nous soyons croyants ou non croyants, que nous nous convertissions ou pas. Donc, depuis Adam, la mort biologique règne. Et donc, dans Romains chapitre 3, versets 10 à 12, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non, pas même un seul. Donc ça, c'est l'état de l'être humain en général. Hein ? Et il n'y a point de distinction par rapport au péché, puisque au verset 23, il nous dit « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car le salaire du péché, c'est la mort. Et ceci est vrai, même pour donc, les chrétiens, la mort règne, puisque dans notamment Actes, Paul, à un moment donné, parle de David. Dans Actes chapitre 13, verset 36, Actes 13, verset 36, donc David qui était un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, « Or David, après avoir servi en son temps au dessein de Dieu, est mort et a été mis avec ses pères et a vu la corruption. » La corruption, c'est la dégradation de notre corps, puisque notre corps a des éléments organiques et atomiques qui viennent de la terre. Et une fois que la vie s'en va, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, le corps se dégrade. Donc c'est ce qu'on appelle la corruption. Donc depuis le début, comme je vous le dis, il n'y a pas de plan B, parce que depuis le début, Dieu a pourvu pour remédier à cela, et il a pourvu par son Fils Jésus-Christ. Donc, il y a un plan de rédemption que chacun de nous connaît, qui est toujours bon de rappeler, que nous trouvons dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. « Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée sans la loi et les prophètes lui rendant témoignage. La justice de Dieu, dis-je, par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux et sur tous ceux qui croient. Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire, donc en parlant de Jésus-Christ, par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Donc voilà, il nous est présenté la solution. Le salut vient de la foi en Jésus-Christ, en son sang versé sur la croix, en ce qu'il a fait sur la terre, mais également dans sa résurrection, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Et donc, si Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire aussi, puisqu'il était à la fois Dieu, mais à la fois être humain, il y a 100% humain, donc s'il a été ressuscité, c'est parce que nous aussi, nous ressusciterons tous, aussi bien croyants que non croyants. Alors, cette rédemption, elle est décrite, à mon sens, je trouve que c'est assez résumé. Bon, on la trouve bien sûr ailleurs, de différentes manières, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 15, en fait, on va dire presque tout le chapitre parle de la rédemption et parle de la résurrection. Je ne vais peut-être pas tout le lire, je vais en lire quelques versets, mais dans l'ensemble, le chapitre 15 montre bien à la fois le plan de rédemption de Dieu, s'appuyant sur la résurrection et avec le changement de corps que nous aurons. Donc, versets, par exemple, 12 à 27. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ n'est point ressuscité. C'est une discussion que nous pourrions avoir avec nos semblables dans la rue. Beaucoup seraient prêts à nous dire, ce que vous racontez, c'est des bêtises, personne ne va ressusciter, on meurt tous et puis point, c'est fini. On est dans le même discours. Paul, à l'époque, avec les Juifs, mais avec également les non-Juifs, avait également ce même discours sur la véracité ou non de la résurrection. Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Oui, puisque la résurrection fait partie d'un dogme sur lequel s'appuie notre foi. Croire pour croire, si c'est pour rester mort éternellement, à quoi ça va nous mener? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Donc en fait, il dit, voilà. Si réellement il n'y a pas de résurrection, nous qui prêchons le Christ ressuscité, ben nous sommes des menteurs. Puisque si dans l'absolu la résurrection n'existe pas, notre prédication ne sert à rien, et nous sommes des menteurs, puisque nous affirmons que Christ est ressuscité et que nous ressusciterons également. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est point ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. En effet, si vraiment il n'y a aucune espérance, pourquoi vouloir vivre une vie de piété si c'est pour mener à rien? On peut le faire parce qu'on croit en Jésus-Christ, parce qu'on veut se conformer à son image, parce qu'on l'aime et on veut. Mais si après, au bout, c'est pour finir dans le néant, c'est-à-dire ne pas vivre éternellement avec lui, il n'y a pas d'intérêt. Quand des individus ont des enfants. Ils les éduquent, ils les aiment bien sûr, ils vivent avec eux pour en faire plus tard des adultes responsables qui puissent mener leur vie, mais avec le secret espoir qu'ils auront des temps de partage avec eux. C'est pas pour après les faire partir dans la nature et puis ne plus jamais les revoir. Et Dieu avec nous, c'est la même chose. Il souhaite que ceux qui croient en lui suivent sa doctrine, l'aiment bien sûr comme lui nous aime, pour partager avec nous de façon éternelle. Mais maintenant, Christ est ressuscité et il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, à savoir Adam, la résurrection des morts est venue aussi par un homme, Jésus-Christ. Car comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Mais chacun en son propre rang. Christ est les prémices, ensuite ceux qui sont de Christ à son avènement. Voilà. Donc, après, ça continue un peu plus loin. Et donc là, sur la résurrection, dans ce même chapitre, on vient d'en parler. Comment serons-nous à la résurrection? C'est une question que les Corinthiens peuvent se poser. Et donc, dans le verset 35, il dit: Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne prend point vie s'il ne meurt auparavant. Et quant à ce que tu sèmes, tu ne sèmes pas le même corps qui doit naître, mais le grain nu, comme il se rencontre, de blé ou de quelque autre semence. Mais Dieu lui donne un corps comme il veut, et à chaque semence, le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, et autre la chair des bêtes. Autre celle des poissons, et autre celle des oiseaux. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des célestes, et autre celui des terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles, car une étoile est différente d'une autre étoile par son éclat. Telle est aussi la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal et il y a un corps spirituel. Voilà, donc on n'a pas plus de détails, mais on comprend que le corps que nous aurons à la résurrection sera différent de celui que nous avions antérieurement. Il sera un corps céleste avec des attributs propres à ce domaine céleste. Et Paul nous précise dans le verset 50 « Or je dis ceci, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite point l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Donc là, Paul fait part d'un mystère, et ce mystère est annoncé dans 1 Thessalonique, chapitre 4, versets 13 à 17. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc on voit bien l'espérance chrétienne, la résurrection, et que en dépit des affres et des difficultés que nous pouvons vivre sur terre, comme chacun des êtres humains sur cette terre, notre espérance n'est pas en nous-mêmes, n'est pas sur un être humain quelconque, mais elle est sur Dieu, sur Jésus-Christ, et sur le fait que la résurrection, la vie éternelle, nous est assurée. Ce qui donne en fait une continuité à notre vie, non seulement à celle qui est terrestre, mais qui va au-delà. Et la mort n'est pas une fin en soi, c'est une porte d'accès à une nouvelle vie, avec un corps différent, un corps céleste. C'est ce qui nous est dit ici, notamment dans ce verset de Thessalonique. Donc là, on voit bien, on parle d'une première résurrection. L'avènement du Seigneur, on le revoit avec l'Apocalypse, se fera avant que l'être impie apparaisse et qu'il y ait cette fameuse tribulation qui est décrite dans l'Apocalypse, donc dans Révélation. Donc l'Église universelle, c'est-à-dire tous les croyants sincères en Christ, seront à ce moment-là enlevés. Les croyants qui sont déjà morts à ce moment-là seront ressuscités pour être en compagnie du Seigneur dans les cieux. Et à ce moment-là, commencera donc la fameuse tribulation qui est décrite dans Révélation. Donc là, nous avons, on va dire, une première résurrection. Dans Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 9, donc c'est Jean qui a une vision et qui donc la transcrit. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël, puisque dans les cieux, il y aura des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine païenne, alors comme nous, qui seront réunis. puisque souvenez-vous, Paul, qui était souvent en butte avec les Juifs, disait notamment aux gentils de ne pas s'enorgueillir de faire partie de l'Assemblée de Dieu, parce que la chute des Juifs avait été permettait que justement les gentils puissent accéder à l'Évangile. Et il nous donnait donc l'image de l'olivier sauvage, et que nous étions donc greffés sur l'olivier franc, à savoir la branche juive, pour exciter la jalousie des Juifs, afin qu'eux aussi aient envie ou cette capacité d'accepter l'Évangile, pour être également eux aussi sauvés. Et dans le verset 9 de ce même chapitre 7 de l'Apocalypse, « Ensuite je regardais, et voici, une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils, donc ces individus, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Et ils criaient à grande voix, disant, « Le salut vient de notre Dieu, qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Donc, pendant ce temps-là, il y a sur terre les fameuses tribulations. Et à la fin de ces tribulations, Jésus-Christ va apparaître, puisqu'il est prédit que Jésus-Christ va régner sur la terre avec un sceptre de fer, et durant 1000 ans. Dans ces tribulations, comme vous le savez, certaines personnes accepteront de recevoir la marque de la bête, et d'autres la refuseront, parce que justement ils croient en Jésus-Christ, et ces gens-là seront persécutés et seront même tués. Donc ce sont des chrétiens qui seront dans la tribulation, qui vont vivre la souffrance dans la tribulation, et qui seront tués par les instances de ces époques-là. Donc eux aussi vont être appelés à ressusciter, mais dans une seconde phase. D'où le mot « résurrection » au pluriel. La résurrection en soi n'est qu'une seule, mais il existe plusieurs phases de résurrection pour différentes personnes. Donc, après cette tribulation et après le règne de 1000 ans du Christ, le Christ va de nouveau lâcher le diable, pour voir si finalement, durant ces 1000 ans de règne, si les gens, les personnes qui se sont converties, vont se tenir à la doctrine de Christ, ils vont se tenir à l'amour avec Christ. Et peut-être que d'autres non. Et malheureusement, il y aura des personnes qui vont chuter. Et dans le verset 4 du chapitre 20, « Et je vis des trônes sur lesquels s'assirent des personnes, il leur fut donné de juger. Je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient point adoré la bête ni son image, et qui n'avaient point pris sa marque sur leur front ou à leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. » Mais le reste des morts ne ressuscita point jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est là la première résurrection. Et donc, ensuite, à la fin des 1000 ans, donc, cette fois-ci, Jésus statue de façon définitive sur différentes personnes, notamment le diable et la mort. Et donc, dans le verset 12, « Je vis aussi les morts, grands et petits, qui se tenaient devant Dieu, et les livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Et la mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'enfer rendirent aussi les morts qui y étaient. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Et enfin, pour conclure, dans le chapitre 21, verset 7, Jésus-Christ dit la chose suivante, même verset 6. « Il me dit aussi, « C'en est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ceci est la seconde mort. Voilà. Donc notre foi et notre espérance n'est pas vaine. Personne, quoi qu'on en dise, n'a retrouvé le corps de Jésus-Christ. D'autres religions, comme l'islam, honorent le prophète Mahomet tous les ans, en Arabie Saoudite. Nous avons un Dieu qui est vivant, et qui nous offre cette rédemption par la foi en son sang, et qui nous offre surtout la vie éternelle avec lui, par la résurrection. Et c'est l'un des messages que nous devons transmettre à nos semblables, même si parfois il est difficile de le faire admettre, mais en tout cas, notre espérance n'est pas vaine, puisque Dieu lui-même a montré le chemin. Soyez bénis.